France Culture, il est tout juste midi et demi. Alors des informations avec vous, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous. Après la double fusillade de la nuit dernière en Allemagne, la justice évoque ce matin un crime probablement xénophobe. 9 personnes au total ont été tuées. Quant à l'auteur présumé de l'attaque, il a été retrouvé mort à son domicile.
Les dirigeants des 27 se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour un conseil extraordinaire qui s'annonce tendu.
Oui, il faut dire que les divergences sur la définition du budget pluriannuel de l'UE, désormais orpheline du Royaume-Uni, apparaissent particulièrement marquées.
Depuis ce matin, les hommages se multiplient pour saluer la mémoire de Jean Daniel.
Fondateur du Nouvel Observateur, grande figure à la fois donc du journalisme mais aussi de la gauche, Jean Daniel est décédé à l'âge de 99 ans. 10e journée interprofessionnelle de grève et de manifestation contre la réforme des retraites aujourd'hui, où quand les opposants au projet de loi tentent tant bien que mal de maintenir la flamme de la contestation. Enfin, comme chaque jeudi, l'invité politique de la rédaction dans une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, Damien Abad, député de l'Ain et président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Et puis à 12h55, Raphaël, ce sera la grande table des idées.
Et il sera question d'environnement et de géopolitique, de la relation entre la Chine et les États-Unis avec Jean-Michel Valentin qui est géopolitiste.
Merci et à tout à l'heure. Si l'Allemagne a été la cible ces dernières années de plusieurs attaques djihadistes, c'est bien désormais la menace d'un terrorisme d'extrême droite qui inquiète le plus les autorités. Quelques jours seulement après le démantèlement d'un groupuscule qui préparait des attentats contre des musulmans, des demandeurs d'asile et des responsables politiques, cette nuit, le pays a donc de nouveau été saisi d'effroi après une double fusillade qui a fait 9 morts à Hanau, près de Francfort. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour Thomas.
L'auteur présumé de cette attaque, dont le corps sans vie a depuis été retrouvé à son domicile, a tiré une première fois dans un bar à Chicha du centre-ville avant de récidiver dans un deuxième établissement d'un quartier périphérique. Le suspect est un citoyen allemand de 43 ans, lequel revendiquait visiblement des positions d'extrême droite, ce qui fait dire ce matin aux autorités, Bertrand, qu'il s'agit bien d'un acte xénophobe.
Eh bien, le parquet fédéral allemand, chargé aussi de la lutte contre le terrorisme, dispose en effet d'éléments qui iraient dans le sens d'une motivation xénophobe. C'est tout ce que l'on sait pour l'instant de sources officielles. L'auteur présumé de ces crimes a été retrouvé mort à son domicile aux côtés d'une autre personne décédée. Selon la télévision allemande ARD, il pourrait s'agir de la mère du suspect. Les enquêteurs ont découvert par ailleurs dans la voiture du tireur des munitions et des chargeurs. Une fusillade qui naturellement choque la petite ville de Hanau dans la grande banlieue de Francfort à l'est de la ville, mais aussi toute l'Allemagne. Le ministre-président du Land de Hesse, Volker Bouffier, se veut encore prudent sur les motivations qui ont conduit à ce massacre. Cette journée est un moment terrible, un crime horrible qui nous choque, nous laisse sans voix et nous plonge dans la tristesse. Nous pensons bien sûr d'abord aux victimes, à leurs proches et aux blessés dont nous espérons qu'ils seront rétablis aussi vite que possible. C'est un crime qui, par sa dimension, est hors du commun. Nous sommes actuellement dans une situation où il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas encore. Il y a beaucoup de spéculations auxquelles je ne veux pas me joindre. Le plus probable est qu'il s'agit effectivement d'un acte lié à des mobiles xénophobes, ce que montreraient des documents et une vidéo retrouvée au domicile de l'auteur présumé de la tuerie, mais les autorités ne le confirment pas à ce stade. Il semblerait aussi que la personnalité du suspect révèle des problèmes psychologiques, l'enquête le précisera. Ce qui est certain, c'est l'inquiétude qui gagne en Allemagne face au terrorisme d'extrême droite en relation avec la question des migrants. Vendredi dernier, 12 personnes ont été arrêtées, soupçonnées d'avoir planifié des attaques de grande ampleur contre des mosquées.
Merci Bertrand Galichet. Le sommet n'a pas encore débuté que déjà nombreux sont ceux à imaginer les interminables joutes verbales nocturnes qui se profilent pour déterminer qui paiera plus, qui bénéficiera d'une remise et qui décrochera le jackpot. Aujourd'hui, les 27 chefs d'État et de gouvernement européens se retrouvent en effet à Bruxelles pour négocier le budget communautaire pour la période 2021-2027. Or, sauf surprise, personne ne peut croire que ce premier tour de piste débouchera sur un quelconque accord. Pourquoi ? Tout d'abord, parce que ces négociations seront rendues d'autant plus difficiles par le Brexit, étant entendu que l'Union européenne devra désormais se passer de l'apport du Royaume-Uni jusque-là deuxième contributeur après l'Allemagne, soit une perte de quelque 75 milliards d'euros sur 7 ans. Et ensuite, parce que de profondes divergences existent donc aujourd'hui entre États membres. Pierre Benazet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Alors, il existe pour l'essentiel deux fronts majeurs, Pierre. D'une part, celui de la contribution et d'autre part, celui de la répartition.
Oui, parce qu'une des pierres angulaires de ce budget, c'est la politique de cohésion, le principe de solidarité européenne en quelque sorte, pour amener tous les pays à un niveau comparable. Les plus en retard économiquement reçoivent des aides spécifiques, par exemple des fonds régionaux, et le président du Conseil européen, Charles Michel, qui est chargé de piloter ces négociations, a même proposé de renforcer ce principe pour réorienter encore vers les pays les moins riches quelques-unes des aides destinées, pour schématiser, aux pays de la partie ouest et nord-ouest du continent. Ça renforce encore la pratique actuelle qui repose sur l'existence de bénéficiaires nets qui reçoivent plus que ce qu'ils payent. On les surnomme aujourd'hui les amis de la cohésion. Ils sont 17 sur 27 États membres. En face, les contributeurs nets, ceux qui reçoivent moins que ce qu'ils payent, comptent dans leur rang ce qu'on surnomme le club des frugaux, les Autrichiens, Danois, Néerlandais, Suédois. Pour eux, pas question de dépasser pour le budget européen 1% du produit intérieur total de l'UE. Mais la proposition de Charles Michel à 1095 milliards d'euros, déjà en retrait par rapport au budget qui s'achève, représente 1,074%, ce qui promet de rudes négociations.
Et puis ces querelles de chiffres, en l'occurrence de pourcentage, cachent en réalité, Pierre, une autre bataille, sans doute plus inquiétante d'ailleurs encore, l'absence de projet commun ou comment réinventer donc l'UE après le Brexit. À ce titre, le fameux moteur franco-allemand semble d'ailleurs décidément au point mort.
Oui, on peut noter qu'il y a des tensions au sein même du couple franco-allemand, et spécifiquement sur ces questions budgétaires. La France qui réclame par exemple le maintien de la PAC, la politique agricole commune, qui n'est pas prioritaire pour l'Allemagne. En face, l'Allemagne note que sa contribution au budget commun va être très supérieure à celle de la France. Certains rétorquent en réalité c'est le contraire si on fait le calcul par tête d'habitant. Bref, pour l'instant, on semble pas devoir compter sur le couple franco-allemand pour résoudre l'équation.
Merci Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Les députés irlandais se réunissent aujourd'hui pour la première fois depuis les dernières élections législatives, marquées par une percée historique des Républicains du Sinn Féin, qui a littéralement chamboulé le paysage politique jusque-là dominé depuis un siècle par les deux grands partis de centre-droit. Problème, le rapport de force au Parlement est devenu tel qu'il faudra qu'au moins trois partis s'entendent pour former un gouvernement de coalition. Sinon, eh bien, faute de majorité et d'accord, les Irlandais pourraient de nouveau être appelés aux urnes, à moins que les Verts, quatrième force politique, ne jouent un rôle décisif. En Tunisie, le seul des pays secoués par les soulèvements du printemps arabe a continué sur la voie de la démocratisation. Le Premier ministre désigné a présenté hier la composition d'un nouveau gouvernement. Un accord de coalition a été obtenu avec le parti d'inspiration islamiste modéré Ennahda, première force parlementaire, ce qui signifie, sauf surprise, que la nouvelle équipe dirigeante devrait a priori obtenir la confiance du Parlement en début de semaine prochaine. Maureen Mercier, vous êtes notre correspondante sur place. 4 mois donc après les législatives d'automne dernier, les Tunisiens vont enfin avoir droit à un gouvernement. Est-ce que pour autant, Maureen, cela règle le fond du problème? En clair, faut-il en déduire que la crise politique est désormais terminée?
Non, parce que les Tunisiens, qui étaient déjà écœurés par leur classe politique, ont vu ces derniers mois des partis qui se sont entre-déchirés, qui se sont montrés absolument incapables de s'entendre pour former un nouveau gouvernement, alors que la Tunisie a évidemment cruellement besoin d'un exécutif. Sans exécutif, impossible de mettre en œuvre les réformes nécessaires pour relancer enfin l'économie. S'ils voulaient nous dégoûter à tout jamais de la démocratie, ils ne s'y prendraient pas autrement. Déclaration d'un jeune homme qui illustre bien le sentiment général. Pour Mouaz Assayoun, analyste politique, président du think tank Youssour, comme d'ailleurs pour l'immense majorité des analystes ici, que la classe politique s'accorde enfin ne règle de loin pas le fond du problème.
C'est une classe politique qui ne colle pas réellement à la réalité du pays, aux besoins du pays. Elle est toujours dans ses petits calculs, elle est toujours dans sa logique de rente. Ils n'ont qu'à travailler et essayer de faire des réalisations, sinon c'est la pression populaire qui va les sanctionner. Hein.
Si les partis politiques donnent désormais enfin l'impression de s'entendre, c'est en fait pour de mauvaises raisons, uniquement pour échapper à des élections anticipées. En clair, pour protéger leur siège. Ils savent pertinemment qu'après cette séquence, les Tunisiens ne voteront pas à nouveau pour eux facilement. Si le gouvernement n'obtient pas la confiance de l'Assemblée, alors le président Kais Saied pourra en effet convoquer de nouvelles élections. Verdict en début de semaine prochaine. Si le gouvernement obtient la confiance, est-ce qu'il saura ensuite se montrer à la hauteur des événements? L'immense majorité des Tunisiens n'en espère d'ores et déjà rien.
Étrié par ses rivaux qui l'accusent d'avoir acheté sa place dans la présidentielle américaine, le milliardaire Michael Bloomberg s'apprêtait à recevoir un barrage de critiques hier soir lors de son premier débat télévisé de la campagne. Et de fait, c'est peu dire que l'ancien maire de New York a fait face à une offensive en règle. Ses principaux rivaux à l'investiture démocrate ont notamment dénoncé les propos jugés racistes et sexistes qu'il a pu tenir dans le passé. De son côté, l'ex-républicain devenu indépendant avant de passer démocrate aura globalement peiné à répondre. Enfin, toujours lors de ce débat pas au ton acrimonieux, le 9e homme le plus riche du monde s'est également fait épingler pour n'avoir pas encore publié ses déclarations d'impôts. Alors que les derniers bilans communiqués en Chine continentale sur une importante diminution du nombre quotidien de cas supplémentaires de contamination au coronavirus laissent à penser que l'épidémie ralentit, difficile de déterminer dans quelle mesure ce déclin relève de la nouvelle méthode de diagnostic ou bien d'une baisse du nombre de personnes contractant le virus. Toujours est-il que le bilan hors de Chine, cette fois-ci, s'est lui alourdi avec les deux premiers décès parmi les passagers du navire de croisière placé en quarantaine dans le port japonais de Yokohama et puis de son côté, la Corée du Sud a fait part ce matin d'une flambée de l'épidémie sur son territoire avec 23 nouveaux cas de contamination. Par ailleurs, et alors que depuis la fin du mois de janvier, de nombreuses compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers la Chine pour tenter de freiner donc la propagation du nouveau coronavirus, Air France KLM a estimé ce matin son manque à gagner entre 150 et 200 millions sous l'hypothèse d'une reprise progressive de ses opérations à partir d'avril. Quant à l'entreprise de construction électrique Schneider, très implantée en Asie Pacifique, elle évalue pour sa part l'impact de l'épidémie à quelque 300 millions d'euros sur son activité au premier trimestre. Si Airbus a enregistré des commandes records l'an dernier pour ses avions de ligne, en revanche, ses activités spatiales et de défense font plutôt grise mine. C'est ainsi que le groupe européen a annoncé hier la suppression de 2362 emplois dans sa division spécialisée, dont un peu plus de 400 postes en France. Sur ces zones d'inquiétude, donc notamment dans le système de la défense, je propose d'écouter Loïc Tribault-Laspierre, économiste spécialiste du secteur du transport aérien et délégué général du Centre d'études et de prospectives stratégiques.
Il est évident que sur la partie défense, il y a effectivement des zones d'inquiétude. Quel sera l'avion de combat futur, où est le positionnement d'Airbus sur les drones, l'avenir des missiles, et puis ce qui est sans doute beaucoup plus fondamental, c'est sur les produits existants. Est-ce que, tout simplement, la 400M va trouver son optimum de marché, sachant qu'il y a eu des hauts et des bas, et puis, dans le fond, ce produit, avec toutes les qualités qu'on espérait, mais n'est pas totalement à la hauteur de ce qu'on souhaitait. Airbus a sans doute péché par excès de bonne foi, c'est-à-dire essayer de répartir la tâche dans différents pays avec des acteurs géographiques qui n'étaient pas compétents, et ça fait partie de ces entreprises qui sont effectivement multinationales, et parfois on est amené, il faut le faire, à donner des tâches où les États ne sont pas compétents.
Plume brillante autant que redoutée. Il avait consacré sa vie au journalisme. Jean Daniel, fondateur du Nouvel Observateur, est mort ce matin à l'âge de 99 ans. Maxime Tellier, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Grande conscience de gauche. Il était un exemple rare de longévité dans la presse française, mais pas seulement. Maxime, puisqu'également écrivain et essayiste, il aura signé une trentaine de livres.
Oui, grande figure intellectuelle, écrivain, essayiste. Jean Daniel restera sans doute associé pour toujours au Nouvel Observateur, le grand hebdomadaire de la gauche social-démocrate qu'il avait cofondé avec Claude Perdriel en 1964, qu'il a dirigé jusqu'en 2008, et où il signait un éditorial chaque semaine à l'image de ce qu'il était, de son parcours, engagé contre le colonialisme, partisan de l'indépendance de l'Algérie, où il était né en 1920 dans une famille juive. Son nom d'origine était Jean Daniel Ben Saïd. Il avait aussi combattu au sein de la 2e DB du général Leclerc en 1945. Plus tard, il s'était engagé pour la légalisation de l'avortement, engagé, certes, mais en quête de vérité. C'est dans la complexité, dans les faits, les avis contradictoires qu'il pensait la trouver. Il le disait dans cette interview diffusée en 1976.
Et puis, dès que j'ai découvert que la vérité était cette contradiction, je vis dans une sorte, non pas d'harmonie, mais de quasi-sérénité, car je crois, j'ai la quasi-certitude, que c'est au travers de cette contradiction que je m'approcherai le plus du réel.
Et Jean Daniel a mené sa vie aux côtés des grands de ce monde, des puissants artisans d'un journalisme d'influence qui, par ses analyses et convictions, visait à promouvoir des solutions. Patrick Evenot est historien de la presse et des médias.
C'est un journaliste qui essaie de réunir, de tisser les fils, d'être médiateur. Il a essayé d'être médiateur entre Kennedy et Castro, entre les Israéliens et les Palestiniens, entre Mitterrand et Rocard, ce qui n'a pas marché. Il essaie d'être le médiateur en même temps d'avoir une analyse profonde intelligente, toujours stimulante, et en même temps des convictions qui font qu'il penche vers un certain côté de gauche, comme il dit, de gauche social-démocrate.
Et aujourd'hui, l'Obs, hein, le nouveau nom du Nouvel Observateur depuis 2014, demeure l'un des trois grands magazines français avec l'Express et Le Point. Jean Daniel, lui, rejoint d'autres figures comme Hubert Boeuf-Méry, Jean-Jacques Servan-Schreiber ou encore François Giroux. D'ailleurs, tous deux étaient amis.
Merci Maxime Tellier. Le gouvernement emmené par Édouard Philippe et sept de ses ministres se déplacent aujourd'hui dans les Vosges pour y récolter la première moisson de son agenda rural, plus exactement pour y faire la promotion de son plan censé répondre au sentiment d'abandon des territoires ruraux, en particulier en y faisant revenir commerce et services de proximité. Et puis, alors que le maire agriculteur reste aujourd'hui, rappelons-le, l'un des piliers de la vie politique à la campagne, et bien cette visite sur cette terre traditionnellement irriguée par la droite est évidemment aussi stratégique à moins d'un mois des élections municipales. Pendant ce temps, les syndicats opposés à la réforme des retraites organisent eux aujourd'hui une 10e journée interprofessionnelle de manifestation dans l'espoir de maintenir donc la flamme de la contestation en cette période de vacances scolaires, et ce alors que le projet poursuit son examen chahuté à l'Assemblée nationale. Des manifestations seront organisées un peu partout en France, à Paris notamment. Le cortège partira à la mi-journée de Montparnasse, direction Porte d'Italie. Annabelle Grolli, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors si les opposants misent donc sur les manifestations de ce jeudi, côté grève en revanche, Annabelle, et en particulier dans les transports, force est de constater que le temps est plutôt à l'accalmie. Que faut-il en déduire ?
Eh bien, après 2 mois de grève et de ce salaire à zéro, les opposants à la réforme reprennent un peu de force. On se refait la cerise, comme on peut entendre dans les rangs des militants. Des militants qui se sont parfois sentis un peu seuls, notamment à la SNCF et à la RATP. Alors que les sondages montraient le soutien d'une grande majorité de Français au mouvement, ça se voyait moins dans la rue et dans les entreprises, regrettent-ils. Ils ont été rejoints sporadiquement et par les fonctionnaires et encore sur le tard par le privé, c'est vrai, mais au risque d'apparaître comme une grève de Parisiens, comme on peut dire leurs détracteurs. Alors cette 10e journée interprofessionnelle de manifestation ne fera sans aucun doute pas le plein, mais ce n'est pas un baroud d'honneur, assure Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Philippe Martinez de la CGT estime lui aussi que le mouvement social n'a pas passé le relais aux parlementaires qui discutent actuellement du texte à l'Assemblée nationale. En revanche, rien à attendre pour lui de la conférence de financement qui a débuté mardi. La CGT, avec les syndicats opposés à la réforme, travaille à une contre-conférence qui serait ouverte au public. Elle pourrait se dérouler le 24 mars au Cézé, à Paris. Du côté de la base militante, on fait le tour des unions départementales, locales et des diverses coordinations interprofessionnelles. La discussion porte sur la possibilité de lancer une grève générale au mois de mars, semaine noire ou nouveau mouvement illimité. Le dilemme ne porte pas tant sur la forme, mais surtout sur la condition que tous partent en même temps, public et privé. Pour le gros des troupes aujourd'hui, cette réforme des retraites concerne l'ensemble des salariés et tous ensemble doivent se mobiliser pour la combattre. Ce n'est plus l'heure de la grève par procuration, assure-t-il.
Merci Annabelle Grelier. Comme chaque jeudi à présent, l'invité politique de la rédaction aujourd'hui, Damien Abad, député de l'Ain et président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, en direct et en duplex du Palais Bourbon. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Une première question, monsieur Abad, avant de parler donc des retraites. On a appris hier que l'Assemblée nationale allait demander plus d'1 million d'euros de dommages et intérêts dans le cadre du procès de François Fillon qui s'ouvrira lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Êtes-vous favorable à cette amende ?
Écoutez, c'est une demande, je crois, qui a été faite par la présidence de l'Assemblée nationale. Ce que nous disons simplement, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Je crois que cette demande n'avait jamais été faite auparavant sur d'autres affaires. Et donc, ce que nous, on veut simplement, c'est l'équité. Ensuite, je crois que c'est à l'avocat de l'Assemblée nationale de dire l'intérêt de cette demande. Voilà, je pense que c'était, d'après ce que j'ai compris, surtout pour des raisons financières et d'indemnisation de l'Assemblée nationale, plus que pour des raisons politiques.
Question de Stéphane Robert.
Damien Abad, à l'Assemblée, concernant la réforme des retraites, on est plus dans le débat, on est dans le combat. Qu'est-ce qui se passe précisément ? Est-ce qu'on est là, pour vous, dans un fonctionnement acceptable ?
Je crois que malheureusement, on n'est même plus dans le combat. On n'est pas dans le débat. En effet, c'est le bazar et c'est même la Bérézina avec une image absolument délétère qui est montrée de l'Assemblée nationale. Et pour nous, il y a une co-responsabilité à la fois du gouvernement et des insoumis. Du gouvernement parce qu'il avait la possibilité, par le temps législatif programmé, d'éviter l'obstruction parlementaire et d'avoir un vrai débat serein et apaisé. et des insoumis parce que ils monopolisent la parole avec des amendements et des sous-amendements qui n'ont ni queue ni tête et qui nuisent finalement tout simplement à la démocratie parlementaire et au débat de fond.
Ce sont eux qu'on entend essentiellement. Ils ont déposé, hein, on va le rappeler, 23 000 amendements, 13 000 pour les communistes. Vous, vous en êtes à 2300. Ça vous gêne qu'on ne vous entende pas ? On vous entend un petit peu, on vous entend sur le financement de la réforme, puisque c'est votre combat, manifestement.
On nous entend, d'abord parce qu'on nous entend, parce qu'ensuite on a de l'expertise, Éric Woerth, Stéphane Viry, Gilles Carrez, un certain nombre de nos collègues qui interviennent avec force et à chaque fois toujours sur le fond. On a fait le choix du sérieux, on a fait le choix de la crédibilité, on a fait le choix de la responsabilité. Notre volonté, c'est pas de faire des effets de manche, notre volonté, c'est pas de crier dans l'hémicycle, c'est de respecter au contraire les Français qui en ont marre de ce spectacle-là. Eh bien, les Républicains, je crois qu'on montre une image digne. Pendant ce débat, on arrive à intervenir. On a fait, comme vous l'avez dit, 2200 amendements, ce qui est une vingtaine d'amendements par député, donc on est très loin de l'obstruction. Nous, on veut un débat de fond, on veut surtout montrer aux Français pourquoi ce projet de réforme des retraites est mauvais et pourquoi on en propose un autre, parce qu'il faut réformer nos retraites pour sauver les pensions de retraite, bien entendu, de l'ensemble des retraités, mais on a d'autres propositions et donc notre objectif, c'est de décliner notre contre-projet en amendement.
Compte tenu de ce qui est en train de se passer, à ce stade, il est difficile de savoir si on pourra arriver au débat sur le fond. Est-ce que le recours au 49-3 est possible pour vous, acceptable, souhaitable, pas souhaitable ?
Il serait inacceptable. Ce serait le Waterloo politique du gouvernement. Ça serait une défaite en race campagne et ça serait tout simplement une résignation. Vous imaginez que si on utilise le 49-3, ça veut dire qu'on ne vote pas sur le texte. Et comme on n'a déjà pas voté en commission spéciale, puisque cette commission n'a pas pu achever ses travaux, ça veut dire que pour la première fois, on aurait une réforme des retraites qui concerne 320 milliards d'euros, 15% du produit intérieur brut, qui serait adoptée sans qu'elle ait été votée une seule fois, ni en commission, ni dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ceci est bien sûr totalement inacceptable, c'est un mépris des institutions et du Parlement, et nous pouvons l'accepter. Je fais confiance au Premier ministre pour qu'il, tout simplement, il n'utilise pas ce 49-3, qui serait un désaveu total et une remise en cause du gouvernement dans son ensemble.
Mais du coup, comment on sort de cette situation ?
Eh bien, on va en sortir très lentement et de manière très difficile, parce que le gouvernement s'est lui-même embourbé. Il avait la possibilité, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir faire autrement. Aujourd'hui, eh bien, il faut avancer amendement par amendement, pas à pas, rentrer dans le débat, éviter les provocations inutiles. J'ai vu aussi des députés de la majorité, parfois, qui provoquent, qui critiquent, qui répondent aux attaques des autres. Et tout ça fait perdre beaucoup de temps. Et moi, je pense qu'on est en capacité, dans une démocratie moderne, de pouvoir débattre sereinement, en se respectant les uns les autres, en portant nos idées. Et si on le fait comme ça, on peut tout à fait arriver jusqu'au bout du texte et avoir un débat sur plusieurs semaines, mais qui soit un bon débat de fond et qui permette d'éclairer tout simplement la vision des Français. Et
si ça se passe comme ça, ça veut dire qu'il n'y aura pas de trêve à l'occasion des élections municipales qui sont dans le premier tour et maintenant dans environ 3 semaines. On annonce une forte prime aux sortants à l'occasion de ces élections municipales. La droite est encore présente dans un nombre important de bastions. C'est une chance pour vous ? C'est un espoir de renaissance ?
Oui, bien sûr. Vous savez, nous sommes le parti des territoires. Nous avons la chance d'avoir beaucoup d'élus locaux. Une nouvelle génération politique est arrivée en 2014. Ce sont des femmes et des hommes qui sont maires et qui ont fait la preuve de leurs compétences, et qui ont un bon bilan, qui sont respectés et soutenus par leurs concitoyens. Et on a cette chance d'avoir ce terreau-là. Et pour nous, c'est une marche importante. Avec Christian Jacob et toute l'équipe des Républicains, notre volonté, c'est que justement on remonte la barre à partir de ces élections municipales et que ça soit non pas un point d'arrivée, mais un point de départ pour créer une nouvelle dynamique et montrer aux Français qu'il y a une alternance politique possible et crédible qui est la droite.
Est-ce qu'il ne sera pas difficile quand même de revendiquer la victoire dans un certain nombre de villes où les maires sortants finalement cultivent l'ambiguïté ? Est-ce qu'un maire encore encarté LR, soutenu par En Marche, qui entretient le flou, il fait pencher la balance de quel côté pour vous ?
Pour nous, c'est très simple. Un maire qui est adhérent à LR, c'est une victoire pour les Républicains. Et si confusion politique il y a, il faut poser la position à La République En Marche. Pourquoi ils soutiennent un maire LR sur le terrain et pourquoi ils combattent tous nos amendements dans l'hémicycle ? C'est eux qui ont un problème de cohérence politique. Nous, on a la chance d'avoir des maires, comme le maire de Toulouse ou d'autres qui sont adhérents républicains. Dans la liste d'ailleurs, si je prends l'exemple de Toulouse, il y a beaucoup de membres des Républicains sur sa liste. Et donc, bien entendu, que si Jean-Luc Moudin est élu, par exemple, eh bien, ça sera une victoire pleine et entière pour notre famille politique.
Un dernier mot sur la campagne municipale à Paris avec Rachida Dati, qui, selon les différentes enquêtes d'opinion, il y en a trois qui viennent de sortir, il y en a une troisième qui vient de sortir, Soprasteria, qui donne Rachida Dati aux alentours de 20%. Ça confirme une dynamique pour la candidate Les Républicains. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous surprend déjà ?
En quelques mots, s'il vous plaît.
Non, parce que je connais bien Rachida Dati, mais simplement, c'est une bonne nouvelle. Elle fait une campagne dynamique, forte, au plus près des quotidiens des Parisiens, et surtout, elle répond à leurs attentes en matière de logement, de propreté, de sécurité. Elle a montré qu'elle a envie, c'est pas un choix de dernière minute, c'est pas un choix par défaut, parce que quelqu'un lui a dit d'y aller. C'est une vraie conviction, et c'est une femme de conviction, et les Parisiennes et Parisiens sont en train de la découvrir, et c'est tant mieux, elle a toutes les chances de pouvoir gagner.
Merci Damien Abad, député, je le rappelle, de l'Ain, et président donc du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, d'avoir répondu à notre invitation directe duplex du Palais Bourbon. Merci également à Stéphane Robert ainsi qu'à Thomas Robin pour les moyens techniques. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi ensoleillé sur une bonne moitié sud du pays. Plus au nord, le ciel restera encore chargé avec des nuages bas accompagnés de quelques gouttes de pluie, et puis une nouvelle dégradation devrait aborder le pays par l'ouest avant de se décaler vers l'est en fin de journée. Quant aux températures, elles afficheront entre 10 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.